Le Coran se réfère à la vie de nombreux prophètes. Le prophète Noé est l'un d'eux. Il tenta, comme les autres prophètes, de détourner son peuple de ses croyances erronées et l'invita à revenir sur le chemin de Dieu. Mais son peuple persista dans son refus à croire en lui. C'est pourquoi il finit par être détruit par un terrible déluge. Ce cataclysme joue depuis des milliers d'années un rôle dissuasif. En vérité, c'est nous qui, lorsque les eaux débordèrent, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel à conserver par toute oreille attentive. La tribu de Noé vivait sans religion, loin des versets divins. Soit ses membres niaient l'existence de Dieu, soit ils lui assignaient des associés. Dieu honora Noé de la prophétie et le chargea par conséquent de guider sa tribu déviante vers la vraie voie. Inlassablement, le prophète Noé conseillait à son peuple d'avoir foi en Dieu et de se conformer à sa religion. Le Coran décrit comment il mit en garde son peuple et l'invita vers le chemin de Dieu. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit : « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous donc pas ? » Or, au lieu de regretter leurs méfaits et de suivre le droit chemin, ils rejetèrent Noé et l'accusèrent d'être possédé. En plus, ils décidèrent de le surveiller et de faire pression sur lui. Face à ces réactions, le prophète Noé chercha refuge auprès de Dieu et implora son aide. Ce n'est en vérité qu'un homme atteint de folie. Observez-le donc durant quelque temps. Il dit : « Seigneur, apporte-moi secours parce qu'il me traite de menteur. » En dépit de la pression des associateurs, le prophète Noé continua à les mettre en garde. Jour et nuit, il luttait pour les amener vers le droit chemin. Ses avertissements étaient vains. Les membres de sa tribu refusaient de suivre le chemin de Dieu. Leurs oreilles restaient sourdes face au rappel de Noé. Aussi, le prophète Noé priait-il Dieu sincèrement à la recherche de son secours. Il invoqua donc son Seigneur : « Moi, je suis vaincu. Fais triompher ta cause. » Il dit : « Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. » Dieu répondit à la prière sincère de Noé, en l'informant de sa décision d'infliger aux associateurs une très douloureuse punition, sous la forme d'une terrible inondation. Dieu ordonna à Noé, qui obéissait consciencieusement à ses ordres, de construire un bateau. Le prophète Noé construisit soigneusement l'arche. Au cours du déluge, les croyants allaient pouvoir ainsi prendre refuge dans cette embarcation et être sauvés d'une terrible souffrance, tandis que les incrédules allaient être noyés. Le cataclysme envoyé sur ceux qui refusèrent de croire en Noé est décrit dans les versets du Coran. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation, et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Lorsque le jour de l'inondation survint, le prophète Noé fit embarquer sa famille et les croyants à bord de l'arche qu'il avait construit selon l'ordre divin. Voici ce qu'en dit le Coran. Puis, lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes alors à Noé. Charge dans l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, excepté ceux contre qui l'arrêt a déjà été prononcé. Embarque aussi tous ceux qui avaient cru. Or, ceux-ci étaient fort peu nombreux. Une forte pluie tomba ainsi sans discontinuer. La visibilité était nulle et tout était couvert d'eau. Le moment de la souffrance avait sonné. Les associateurs tentaient désespérément de fuir pour se mettre à l'abri. Tous leurs efforts étaient vains. La promesse de Dieu devait s'accomplir. Tous les associateurs furent noyés. Les seuls rescapés furent Noé et ses compagnons à bord de l'arche. Quand le déluge toucha à sa fin, les eaux se retirèrent et le bateau s'arrêta à un endroit surélevé, appelé El Joudi. C'est ce que reprennent ces versets du Coran. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau. Et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Joudi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Le propre fils de Noé faisait partie des noyés. En dépit des avertissements de son père, il persista dans son égarement. Le Coran le révèle ainsi. L'arche commença alors à voguer au milieu d'énormes vagues, aussi hautes que des montagnes. Noé appela son fils qui était resté à l'écart. « Mon cher fils, monte avec nous, ne reste pas avec les impies. » Je vais me retirer, dit-il, sur une montagne qui me mettra à l'abri des eaux. Nul n'échappera aujourd'hui à l'arrêt de Dieu, excepté celui qui aura bénéficié de sa grâce, dit Noé. Puis les flots s'interposèrent entre eux, et le fils de Noé fut submergé. Le déluge de Noé, décrit dans le Coran et la Bible, a suscité un grand intérêt depuis des centaines d'années. De nombreux mythes s'édifièrent autour du déluge, liés aux cultures de différentes civilisations. Diverses croyances ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Certains réfutent l'existence de l'inondation, car ils estiment qu'une inondation mondiale est impossible. Cette critique particulière vise des distorsions dans la Torah. La Torah regroupe les 5 livres de l'Ancien Testament. Elle contient des failles et affirme notamment que l'inondation fut un événement cosmique, engloutissant le monde entier. En revanche, le Coran n'avance rien de tel. Il ne dit pas que le monde entier fut inondé, mais seulement que le peuple de Noé fut noyé. On peut en conclure que le cataclysme était limité à une zone géographique. D'après les recherches archéologiques et historiques, l'inondation eut lieu en Mésopotamie. Les plaines mésopotamiennes sont pressenties comme le lieu où se produisit le cataclysme. Dans cette région se développèrent les civilisations les plus anciennes et les plus avancées. La présence du Tigre et de l'Euphrate rend la zone géographique très propice à une grande inondation. Par ailleurs, une raison historique appuie la théorie selon laquelle la Mésopotamie fut le lieu du drame. D'étonnants documents provenant des civilisations établies dans la région montrent qu'un grand déluge s'abattit sur plusieurs civilisations à la fois. D'après les découvertes archéologiques, les Mésopotamiens souffrirent de nombreuses catastrophes au cours de l'histoire. Vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Ibbi-Sin, souverain de Ur, situé au sud de la Mésopotamie, décrivit l'année comme succédant à une inondation qui annihila les frontières entre les cieux et la terre. Vers 1700 avant Jésus-Christ, le Babylonien Hammurabi écrivit à propos du déluge qui ruina la ville de Eshuna. Les cataclysmes ne se limitaient pas à cela. Des inondations eurent lieu dans la région au Xe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du souverain Nabumukinapal. Au 7e, 8e, 10e, 11e, et 12e siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'au 20e siècle. Il semble donc que la région a toujours été un lieu de catastrophes naturelles. C'est pourquoi il semble très possible qu'un puissant déluge ait dévasté tout un peuple. Les archéologues ont mené de nombreuses recherches afin de trouver des traces du déluge en Mésopotamie. Et ils ont abouti à certaines découvertes dans quatre villes. Et il s'agit des quatre villes les plus importantes de la Mésopotamie à l'époque. Ur, Erech, Kish et Shurupak. Hall, du British Museum, fut la première personne à effectuer des excavations dans la cité de Ur. Léonard Houlet poursuivit les travaux de Hall en collaboration avec le British Museum et l'Université de Pennsylvanie. Les excavations de Houlet eurent une portée mondiale. Ces fouilles s'étalèrent de 1922 à 1934 et furent menées au milieu du désert entre Bagdad et le golfe Persique. Les premiers fondateurs de la cité de Ur étaient un peuple originaire du nord de la Mésopotamie, s'appelant Ubédiens. Les archéologues qui s'intéressèrent à ce peuple tombèrent sur des restes tout à fait étonnants. La cité de Ur avait un mausolée royal. Dans ce mausolée furent découverts de nombreux objets, des casques, des sabres, des instruments de musique, des travaux d'art ornés d'or et de pierres précieuses, et surtout des tablettes d'argile où étaient relatés les faits historiques avec une grande expertise et au moyen de techniques avancées. S'appuyant sur ces récits, Houlet décide de creuser plus profondément. Il tombe alors sur la preuve d'une terrible inondation. Il s'agit de boue, une sorte de sable pur que seule l'eau a pu déposer. À 2,50 m de profondeur, des bols de terre émergent d'une couche d'argile pure. La conclusion est évidente. Il ne fait pas de doute que la cité de Ur fut frappée par le déluge. L'archéologue allemand Werner Keller exprima l'importance de la découverte. La découverte de traces de vie en dessous d'une couche boueuse prouve qu'il y a bien eu une inondation à l'endroit des fouilles. On poursuivit les recherches dans une autre cité mésopotamienne, connue aujourd'hui sous le nom de Tol al-Uaimer, ou Kish des Sumériens. Selon les sources anciennes sumériennes, cette ville fut la capitale de la première dynastie post-diluvienne. Elle porte elle aussi les traces d'un déluge. La ville de Shurupak, au sud de la Mésopotamie, appelée aujourd'hui Tol Farah, présente également les traces d'une inondation. Les études archéologiques dans cette cité furent dirigées par Erich Schmidt de l'Université de Pennsylvanie entre 1920 et 1930. On mit à jour des traces d'une civilisation florissante entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. D'après les inscriptions cunéiformes trouvées, il semble que les habitants de la région étaient relativement avancés culturellement. Il est également question d'une terrible inondation qui eut lieu vers 3000 à 2900 avant Jésus-Christ. Selon les rapports d'un autre archéologue, Sir Max Malouan, à 4 ou 5 mètres en dessous du niveau de la terre, Schmidt avait atteint une couche de terre jaune formée par l'inondation, mélange de sable et d'argile. Cette couche était plus proche du niveau de la plaine que le profil du tumulus et elle était présente tout autour du tumulus. La ville suivante qui fut fouillée fut la cité de Erech au sud de Shurupak. La cité s'appelle aujourd'hui Tal al-Warqa. On y trouva également une couche faisant preuve d'une inondation par le passé. Elle est datée entre 3000 et 2900 ans avant Jésus-Christ, tout comme pour les autres cités. Ces preuves semblent montrer que la zone inondée s'étale sur 160 km d'est en ouest et sur 600 km du nord au sud. Donc, l'inondation couvrit toute la plaine mésopotamienne. Au moment du déluge, les niveaux des fleuves Tigre et Euphrate, qui longent toute la Mésopotamie, crurent. L'effet combiné des pluies diluviennes et des crues donna lieu à une terrible inondation. Le Coran révèle. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent suivant un arrêt fixé d'avance. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche. Nous avons vu que les données archéologiques et historiques mènent à croire que le déluge de Noé eut lieu sur une zone géographique limitée. Les commentateurs de l'Ancien Testament, affirmant que le déluge engloutit le monde entier, manquent de preuves scientifiques. Par ailleurs, une inondation planétaire ne semble pas possible en raison des animaux embarqués. D'après les défenseurs du déluge mondial, le prophète Noé fit monter à bord de l'arche toutes les espèces vivantes sur terre, les préservant ainsi d'extinction. Mais comment Noé aurait-il pu recevoir, nourrir et entretenir toutes les espèces animales? Comment aurait-il pu rassembler les espèces d'autres continents? Il n'y a pas de réponse. En réalité, le déluge se produisit en une région précise. Les animaux embarqués furent par conséquent ceux vivant dans la même région. On peut par ailleurs supposer que les animaux de l'arche étaient domestiqués, qu'ils furent facilement embarqués, protégés et qu'ils étaient inoffensifs pour l'être humain. Le Coran nous informe que l'arche se posa après le déluge sur El Joudi. C'est là un point important. Le mot Joudi est généralement considéré comme le nom d'une montagne spécifique, alors qu'il signifie hauteur ou colline en arabe. Donc, d'après les versets du Coran, l'arche s'immobilisa sur une hauteur. Joudi n'est donc peut-être pas le nom d'une montagne en particulier. Par ailleurs, la signification du mot Joudi peut laisser penser que les eaux atteignirent une certaine hauteur, mais pas au-delà de celle des montagnes. Le déluge n'engloutit probablement pas toute la terre, et donc toutes les montagnes, comme cela est écrit dans l'Ancien Testament, mais seulement une région particulière. Il est très intéressant de voir comment le déluge de Noé est évoqué au sein de différentes cultures. Il en est fait mention dans les légendes grecques, dans les épopées Shatapatha, Brahmana et Mahabharata de l'Inde, dans certaines légendes du pays de Galles, dans les légendes épiques scandinaves, dans les légendes lituaniennes et dans des contes d'origine chinoise. Comment ces anciennes civilisations, aussi éloignées les unes des autres et sans moyen de communication entre elles, se rejoignent-elles en ce qui concerne le récit du déluge? La réponse est claire. Toutes ces civilisations ont dû obtenir les mêmes informations. Il est donc clair que cette source commune d'informations ne peut être que Dieu. Les peuples des différents prophètes devaient tirer une leçon de ce déluge, tant et si bien qu'il finit par s'intégrer dans la culture. Pourtant, à chaque fois, les textes originaux furent modifiés. La vérité s'est donc perdue au milieu d'idées mystiques et mythologiques. Le Coran est la seule source restant en accord avec les découvertes empiriques. La raison en est que le Coran est révélé par Dieu et qu'il est sous sa protection. Il est par conséquent impensable qu'il changeât ou qu'il se départît de sa véritable essence. Dieu révèle dans un verset. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. La vie de Noé ainsi que le déluge sont décrits en détail dans le Coran. Le peuple de Noé refusa de corriger son mode de vie déviant, en dépit des avertissements. Il continua à repousser l'existence de Dieu et fut enfin détruit sur un ordre divin. Cela est évoqué dans de nombreux versets du Coran. La vérité de ce cataclysme, vieux de plusieurs milliers d'années, est aujourd'hui confirmé par des études scientifiques. Les conclusions de ces recherches sont toutes conformes aux versets du Coran. Il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. Le déluge est une importante leçon à retenir pour tout le monde. Les croyants doivent prendre les vies des prophètes comme modèle et retirer les leçons de ce que les associateurs du temps de Noé subirent. Dieu ordonne dans ses versets. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Dieu les saisit pour leurs péchés, et ils n'eurent point de protecteur contre Dieu.